Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Tout comme Femmes d'aujourd'hui, version homme, c'est aussi notre communauté, notre espace d'échange, de discussion. Et comme vous le savez, le rendez-vous a démarré l'été dernier. Alors, je prends aujourd'hui des nouvelles de l'un de mes intervenants passés. Vous allez comprendre pourquoi. On y va pour les détails.
Médien, Yasmine, version homme.
Hicham Ben Abbas-Tahrji, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec moi une nouvelle fois dans la version homme de femme d'aujourd'hui. Pourquoi je dis une nouvelle fois, Hicham ? Parce qu'il y a un an, nous étions ensemble dans ce rendez-vous. Vous aviez fait partie de mes premiers invités hommes dans version homme.
Version homme.
Et 12 mois après, je reprends de vos nouvelles parce que la vie ne vous a pas épargné, cette année ne vous a pas épargné. Alors lorsqu'on a été ensemble il y a un an, dans la première fois avec vous dans version homme, on a parlé couple, on a parlé remariage, c'était votre expérience de vie, justement tout ça. Et puis, quelque chose de douloureux s'est passé cette année.
Tout à fait, tout à fait. Ben, j'ai perdu ma femme, morte d'un cancer du sein. Et c'était un exemple d'abnégation, de gentillesse, de générosité. La chance d'avoir eu une personne comme ça qui m'a accompagné pendant 15 ans, qui m'a fait deux beaux enfants. Et ce n'est pas évident de vivre maintenant après, de se reconstruire. Mais je pense qu'il faut le faire. Et c'est moi qui te remercie de ta nouvelle invitation, parce que c'est moi qui suis honoré de faire partie de Version Homme et de pouvoir partager aussi ce que j'ai à partager, avec tes auditeurs.
Alors, une question. Avec plaisir. Alors, Hicham, il faut, pour mettre les auditeurs d'Yaouna dans le contexte, alors vous êtes médecin gynécologue.
Tout à fait.
Votre femme, la rahmaha, elle a découvert son cancer à quel stade ?
Elle a découvert un stade assez avancé parce qu'en fait, il y avait des problématiques familiales. Mskina, elle avait un frère aussi qui avait été handicapé et qui l'a accompagné pendant 6 ans et demi. Et donc, il y avait une surveillance que je faisais, que d'autres médecins faisaient avec moi. Et c'est ça le problème du cancer. C'est que c'est quelque chose de très fréquent et on ne sait jamais, on n'a pas envie d'aller trop investiguer quand ça nous paraît assez bénin. Et des fois, on peut se tromper. Et donc, on s'est réveillé un peu trop tard vu la problématique familiale. Elle a fait son cancer 6 mois après le décès de son frère, l'Arhman. Et donc, pour moi, c'était le stress et tout. Et on était un peu perdu, on ne pensait pas que ça allait nous arriver. Ben, je pourrais dire Xen à Shiblift. Et donc, ça me touche aussi. Mais le problème, c'est que voilà, pour moi, elle a combattu, elle a fait un cancer, je dirais pas méchant, mais elle n'arrivait pas à répondre. Et pour moi, c'est le stress et la vie. Et c'est une expérience pour elle, pour nous, pour la famille. C'est pas évident. Mais je dirais, il faut en retirer le positif parce que ce qui s'est passé, c'est passé. Et maintenant, il faut se reconstruire, je dirais. C'est surtout ça. Et en tirer les leçons.
Alors, pour comprendre ce qui s'est passé exactement, elle a fait un cancer, elle n'était pas prédisposée. Il n'y avait pas de prédisposition familiale.
Non, il n'y avait pas de prédisposition familiale. C'était un cancer qui était, je dirais, qui était assez gentil sur le papier, sur le côté génétique, qui devait répondre. Mais par un manque de chance, et ben, avec le 1% d'hormonorésistance, et ben, il y était dedans, avec toutes les chimies, malgré tous les traitements qu'on faisait, et ben, ça ne répondait pas bien. Et son cancer lui a mis 2 ans et demi, alors qu'il y avait théoriquement des cancers plus méchants, plus agressifs, qui vont faire 5 ans, 10 ans chez d'autres personnes.
D'accord.
La thérapie maintenant du cancer, et je suis dedans, ben on arrive à répondre. Il y a 10%, 20% et ben qui échappent. Et Mskina, elle était dans cette... c'est pour ça que pour moi, je dirais autre chose que la médecine. Est-ce que c'est son destin aussi ?
Oui.
اللي كتب لي سيدي ربي مي اي سي تي ان ان اكزامبل دابنيغاسيون دو باتاي دو مسكينه سكال سوفري سكال اكسبتي سي سي ثيراپوتيك justement pour se défendre pour ses enfants et pour sa famille et c'est ça que je retiens moi c'est cet exemple de bagarre contre la maladie jusqu'à la fin
mais
c'est ça qui est touchant je dirais le positif maintenant pourquoi pour moi c'est ça l'immunité le moral est quelque chose de très important plus que le côté thérapeutique médical chimio radio etc. Il y a aussi un contexte qui fait qu'on se défend ou on ne se défend pas.
Ah, ouais. Alors, voilà. Est-ce que c'est difficile pour le médecin que vous êtes d'accepter que votre épouse était dans ce 1% d'immunorésistance, c'est comme ça qu'on appelle.
Elle a fait une hormonorésistance.
Résistance, absolument.
Un cancer qui était sensible aux hormones normalement, qui devait répondre aux anti-hormones qu'on donne. Et elle était dans le 1%. Non, bon, moi je suis gynéco, je ne suis pas oncologue, donc j'opère, mais après c'est l'oncologue qui gère plus cela. Mais bon, j'en apprends aussi. Moi aussi j'apprends, hormonorésistance, je ne connaissais pas, j'apprends ça.
Mais ça fait pas mal au cœur. Enfin,
est-ce
que ça fait mal quand on se dit, je suis médecin, je fais des études de médecine, je sauve des vies tous les jours, mais ma femme, j'arrive pas.
Bon, premièrement, je n'étais pas son médecin. C'est-à-dire, elle ne voulait pas que je sois son médecin. Ah. Et donc, j'étais son conseiller. Ce n'était pas moi qui décidais, vous voyez. J'étais son conseiller, je lui ai expliqué pour qu'elle comprenne. Ça rassure de comprendre. Mais je n'étais pas celui qui décidait, heureusement. C'est difficile. Ma femme, Skina, quand il y avait un petit truc, c'était de toute sa vie, c'était toujours elle qui allait avoir le petit truc rare. Est-ce qu'elle l'appelait? Je ne sais pas, vous voyez. Est-ce que c'est la loi de l'attraction? Mais quand il y avait quelque chose qui est rare, ça lui arrivait. C'était toujours ça. Maintenant, d'un point de vue médical, je me disais, mais attends, théoriquement, selon les réponses là, on a 90% de réponses, on a un bon pronostic, a priori c'est bon. Mais tu voyais que ça marchait pas.
C'est pas sur elle.
Voilà, et donc tu as accepté, mais d'un autre côté, je me disais, ma femme, combien il lui reste à vivre? Allez, dans le meilleur des cas, il lui reste quelques années à vivre. Au pire des cas, c'est quelques mois. Mmh. Et sinon, ça peut craquer du jour au lendemain, jusqu'à ce qu'un jour, ça a craqué. Mmh. J'étais plus ou moins préparé. J'étais préparé et en même temps, le jour de sa mort, je n'y attendais pas. Mmh. Elle m'avait demandé la veille, est-ce que je vais m'en sortir? Je lui ai dit oui, je pense que tu vas encore t'en sortir. Comme tout le temps, ça fait 3 mois que tu t'en sors alors que tu as des difficultés. Et tu vas encore... Rebete Amina, ou là, enfin, on ne veut pas croire. Mais je dirais, le côté médecin et objectif que je voyais, je me disais, ma femme ne va pas faire très long feu, elle ne va pas vivre encore 10 ans. Mmh. Ça m'étonnerait. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle parte avec son cancer et tout, pendant qu'il lui fasse 2 ans et 8 mois. C'est ça, à la rigueur, pourquoi ? Mais bon, c'est la vie, on ne peut pas se... C'est ce que le bon Dieu lui a réservé, c'est ce que le bon Dieu nous réserve nous aussi. On ne peut pas faire autrement, on peut pas. Il faut que l'accepter.
Mais justement, vous avec vous-même, est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez dit pourquoi ?
Non, je ne dis pas pourquoi, j'accepte. Ça sert à quoi de dire pourquoi? C'est-à-dire, pourquoi c'est résister, c'est encore enfoncer le truc. Non, il faut... Personnellement, je suis résilient, j'accepte les choses, je fais le maximum pour que je puisse faire, pour essayer de guérir, d'améliorer les choses. Mais après, le Kamel Oulila, donc on ne peut pas se... Pourquoi ça ne marche pas? Il faut agir. Et je dirais à la rigueur, je vais être gonflé, mais peut-être que je suis tranquille parce que j'ai fait ce que je devais faire. Et elle aussi, elle n'a jamais refusé une chimio ou une radiothérapie ou quelque chose. Elle s'est toujours battue pour faire tout ce qu'il y avait à faire, même si ça ne donnait pas de résultats probants.
Mais elle a fait ce qu'elle avait à faire.
Elle a fait ce qu'elle a cru, elle a fait ce qu'elle avait à faire, elle s'est battue. C'était un exemple d'abnégation, je vous dis, de bataille contre la maladie, qui était très dure. Elle aurait pu partir avant, elle se battait au maximum. Pour moi, c'est ça que je vois.
Ouais.
C'est cette acceptation, mais dire non, refuser, dire pourquoi, on n'a pas la réponse. Alors, moi, je suis pragmatique. Me poser la tête à me poser des questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Je peux me les poser, mais après, on a tout fait. Je me rappelle, on avait même fait une biopsie médiastinale pour rechercher un ganglion, pour faire une étude génétique qui est partie aux États-Unis. C'était vraiment... on a fait le maximum pour essayer de comprendre. Et malgré ça, ça ne répondait pas. C'était sensible sur le papier à telle et telle molécule. Mais sur le fait, ça répondait pas. Pourquoi? Je peux pas dire. Pour moi, l'explication, c'est le stress de la mort de son frère
ouais.
qu'elle a accompagné. C'était une dame très généreuse.
On dit souvent que le cancer du sein est émotionnel, c'est vrai?
Oui, justement, pour moi, j'en suis convaincu. C'est-à-dire que l'émotion, le stress, va diminuer notre immunité et permettre à la cellule cancéreuse de se développer. On a des cellules cancéreuses dans notre corps tout le temps, tous les jours on en a. Mais heureusement, on a une immunité, on a des cellules blanches, des globules blancs natural killer qui permettent de se défendre. Et je suis convaincu, moi, et même beaucoup d'oncologues, c'est pas prouvé médicalement, mais beaucoup d'oncologues le savent. Après un choc, après un stress particulier, un divorce, un deuil, un décès d'un proche, souvent on déclenche un cancer par la suite.
Absolument.
Ou une autre maladie.
C'est ça.
Et d'ailleurs, on a développé maintenant, il y a des médicaments maintenant, le traitement du cancer fait appel à ce qu'on appelle des médicaments d'immunologie. Enfin, on booste l'immunité, l'immunothérapie. Il y a cela.
Alors, d'accord. L'homme que vous êtes, comment il va?
Difficile, ça va. Ben, il faut s'occuper des enfants, il faut se reconstruire, c'est pas évident. D'abord les enfants, c'est eux qui prennent Tahoma parce qu'ils ont 11 et 13 ans et c'est pas évident de vivre sans leur maman. L'homme que je suis, il est en deuil, il lui manque quelque chose, il a besoin de rebondir, il a besoin de se reconstruire. Il se reconstruit à la rigueur avec ses patientes, parce que ses patientes lui ont toujours apporté un sentiment d'utilité. Mais sinon, c'est pas la grande tristesse, mais ça, c'est pas la grande joie, je dirais.
C'est accepté, mais il faut
avancer de l'avant. Et je pense que l'exemple de ma femme était vraiment, c'est quelqu'un qui a, encore une fois, je reviens, c'est un bon exemple d'abnégation et de continuer. Je pense que honorer sa mémoire, c'est de ne pas accepter d'être détruit et de se reconstruire, d'avancer.
Alors, les hommes ont malheureusement dans notre société la mauvaise réputation de très vite faire leur deuil, de très vite passer à autre chose. On dit carrément que les hommes spotent leur future épouse. Fdalgnez, c'est vrai.
Oui.
Ça vous fait mal au cœur, Hicham, ça agit d'entendre ça?
Non, c'est vrai. Dans quel sens? Que nous, les hommes, on nous apprend à être forts, à être l'homme fort. Mais en fait, on est aussi faible. Et je dirais, le sexe faible qui est la femme, elle en bave tellement au cours de sa vie que ça, au contraire, ça la rend beaucoup plus forte. Donc le véritable sexe fort, pour moi, c'est la femme. Et un homme tout seul, bon, ça existe, bien sûr, mais un homme a besoin d'une femme plus que, je dirais, d'une femme a besoin
d'un homme.
Hein, et donc c'est pour ça. Et la femme, à un certain moment, quand elle a ses enfants, elle va se contenter de ses enfants, elle va gérer son foyer tout seul, elle n'a pas forcément besoin de se remarier. Bon, bien sûr, il y a des besoins sexuels, mais à part cela, alors qu'un homme, il a envie plus de quelqu'un qui va s'occuper de lui. On est un sexe plus faible. Et donc peut-être que c'est pour ça qu'il, qu'il va se rapidement se remarier. Maintenant, il reste les enfants. Moi, il y a quelque chose qui m'avait fait, qui m'avait fait rire, c'est que ma femme, Flegnaza, j'entends ça, de ma femme qui voulait me destiner quelqu'un, quelqu'un qu'elle aimait beaucoup, qu'elle aurait aimé que j'épouse après sa mort, parce que c'était juste marrant qu'elle ait pensé ça. Vous voyez, c'était mignon. Et c'est normal, toute
mère. Vous pensez que c'est vrai?
Ben, on me l'a dit, la personne qui me l'a dit, je le crois. Ça m'a touché, oui, je le crois.
Parce qu'elle, à ce moment-là, elle pense finalement à ce qu'elle laisse derrière elle. De plus précieux, ce sont ses enfants.
Voilà. Elle ne m'a rien dit, on n'a jamais parlé de ça. Je vous dis, même sa mort, elle m'a surprise. Je m'y attendais pas, même si je la voyais venir un jour. Mais je ne l'attendais pas, comment ça s'est passé. Et je vous dis, j'ai été surpris par ça. C'est, bien sûr, elle pense à ce qui est le plus cher pour elle, c'est ses enfants, exactement. Et voilà. Mais c'est pour ça que souvent, c'est vrai que les hommes se remarient. Mais bon, encore faut-il trouver... Il ne faut pas se remarier juste pour retrouver la... Pour se remarier.
Pour combler un vide.
Je crois qu'il ne faut pas juste se remarier pour combler un vide. Ouais. Il faut, parce que sinon, c'est aussi les prémices d'un échec.
Ouais.
Est-ce que vous avez remplacé? Est-ce que vraiment tu l'as oublié? Tu ne l'as pas oublié? Comment tu vas reconstruire cette nouvelle relation alors que l'autre est encore présente?
Absolument.
Donc, il ne faut pas se remarier juste comme ça. Il faut se remarier parce que tu es amoureux, parce que oula, l'essentiel, c'est de savoir pourquoi on se remarie.
Ouais. Et de l'assumer.
Et de l'assumer. Et moi, je dirais juste quelque chose pour la nouvelle compagne ou la Heda, c'est que c'est pas forcément. On n'oubliera jamais la première décédée, ou on n'oubliera jamais. Mais on passe. Elle est partie. Il faut retenir le meilleur de cette personne. Il faut retenir le meilleur, l'expérience, ce qu'on a passé, éventuellement les échecs et les erreurs qu'on a pu faire. Pour ne pas les reproduire. Mais on ne peut pas comparer, il ne faut pas comparer. Même, je dirais, la nouvelle compagne ou quelque chose, il ne faudrait pas qu'elle se mette en position de comparer.
Oui, absolument.
Zama, non, c'est une autre vie. Pour moi, la vie, il y a différentes étapes dans la vie. Et c'est, voilà, on a passé du temps avec cette personne. On n'est plus avec cette personne pour X raisons. Et donc, il faut reconstruire une autre... Il faut passer à autre chose.
Alors... Quand vous le dites, ça semble serein, mais je me mets en même temps à la place de la famille de votre épouse, l'Arhama. Est-ce que c'est un discours que ses proches acceptent? Il faut passer à autre chose.
Non. En plus, eux, ils ont perdu deux enfants
en même
temps.
Ouais.
C'est horrible, à 4 ans d'âge, c'est horrible. Non, mais je crois qu'il ne faut pas... La problématique de notre vie en société, c'est qu'on pense pour les autres et on ne pense pas pour soi-même. Ma belle famille, je les adore, c'est Zama, Allah, Aounoum, je leur souhaite le meilleur. Mais l'essentiel, ce qui est important, et pour moi, c'est mes enfants. Et pour mes enfants, c'est d'abord moi.
Oui.
Et cette année, à la rigueur, je dirais, je me suis toujours considéré comme égoïste, c'est-à-dire je pense à moi, mais j'ai fait beaucoup de développement personnel, c'est ça qui me permet d'être plus résilient. Et voilà, il faut que moi je sois bien pour pouvoir être bien pour mes gosses. Après, et pour les autres, tant pis, mais il ne faut pas être bien pour les autres, tenir un discours conciliant ou tenir un discours qui plaît aux autres alors qu'il ne te plaît pas à toi. Et je crois que c'est ça le problème de notre société maintenant. On a beaucoup d'hypocrisie parce qu'on dit des choses que les autres veulent entendre ou on a telle posture alors qu'on n'est pas bien avec ça. Et l'essentiel, c'est d'être d'abord bien avec soi-même. Pour moi, c'est ça qui est primordial. Et chacun, comment il va vivre? Et je dirais, je pense que l'Iman et Dine permet à ma belle famille d'accepter la chose. Enfin, j'espère pour eux. C'est ça qui est génial. Ils sont résilients par rapport à ça.
Vous en parlez parfois?
Non, mais je suis convaincu de ça. Je les connais très pieux et je suis convaincu de ça. J'espère pour eux que c'est ça qui va les aider à dépasser cela.
Est-ce que justement, dans notre société, on ne parle pas d'émotion et vous avez perdu tous cet être et vous n'en parlez pas, en fait. Vous ne parlez pas des émotions des uns et des autres. Dans d'autres cultures, on en parle facilement. On fait un deuil ensemble, on en parle.
Oui. Ouais. Mais justement, tu en parlais tout à l'heure de justement l'homme, il se remarie rapidement. Non, l'homme n'a pas le droit d'avoir des émotions. Les émotions, c'est justement ce qui fait la faiblesse de la personne. Entre guillemets, il est émotif et donc il réagit mal. Vous voyez, il n'arrive pas à réagir de manière correcte ou de manière... Il réagit par rapport à ses émotions. Mais au contraire, c'est nos émotions qui font notre humanité. Et plus on les bafoue, plus on les dénie, et plus on est mal.
Absolument.
Et je dirais peut-être que je suis assez bien parce que j'accepte mes émotions. J'accepte de pleurer, j'accepte d'être triste. On ne peut pas dire, non, il ne faut pas que je sois triste. Non, au contraire, sois triste, mais ne sois pas accepte. Et après, tu passeras à autre chose. Heureusement que si à la rigueur on va vers la dépression ou quelque chose, eh ben il faut s'aider de traitements antidépresseurs. Ben je prends des antidépresseurs, je me fais accompagner.
Mais il faut
arriver à dépasser, ouais. Accepter, laisser le temps faire, et éventuellement se reconstruire. Mais être dans le déni de ne pas accepter ses émotions, de dire c'est la faute aux autres, ou d'envoyer de la colère, il y a aussi un problème de mauvaise compréhension. On peut faire des choses qui peuvent blesser l'autre sans intention.
Absolument.
Je suis sûr que j'ai fait des choses avec ma belle famille que j'ai blessées, qui m'ont blessé. L'essentiel, c'est est-ce qu'il y a une intention de le faire.
Ouais,
il faut vraiment, mais la colère, le fait que chacun soit triste, le fait que chacun soit touché, fait que on va blesser l'autre sans forcément le vouloir, par des actes qu'on peut assumer, mais on n'est pas d'accord avec lui. Et lui va être touché, et ça va faire des choses. Et je crois qu'en fait, il faut revenir à l'essentiel, c'est qu'est-ce que tu veux toi.
Et l'intention aussi.
Concentrer sur soi.
C'est ça. Et l'intention aussi par rapport aux autres, c'est important.
Bien sûr, bien
absolument.
Sûr. Mais à la rigueur, je dirais même pas ça. Il faut d'abord se concentrer sur soi. Pas avant. Il faut d'abord soit être bien pour pouvoir être bien avec l'autre.
Avec l'autre.
Si tu n'es pas bien avec toi-même, si tu essayes de plaire à l'autre, de faire par rapport aux convenances sociales, par rapport à l'autre, là tu vas pas t'en sortir. Donc encore une fois, il faut être égoïste, c'est-à-dire penser à toi, faire ce que toi ça te plaît, même si ça plaît pas à l'autre. Il vaut mieux que ça te plaise à toi, que toi tu sois tranquille, que réagir à l'autre alors que toi tu n'es pas tranquille avec toi-même.
Absolument.
C'est ça, je crois que l'erreur de notre société, on essaye de plaire, on essaye de faire comme les convenances. Non, ça ne se fait pas, non, hada, non, hada. Vous voyez, pour moi, c'est ça. C'est ça la chose.
Hicham Ben Abbas, oui. Merci infiniment d'avoir été avec moi pour parler de cet épisode tellement, tellement privé, tellement... Voilà, tellement personnel.
Merci à toi, parce que vraiment, on ne s'attendait pas à parler comme ça de cette histoire. Et pour moi, c'est un exemple. Voilà, je retiens qu'après toute expérience, il faut vouloir le bonheur pour qu'il vienne. C'est comme ça que je terminerai. Il faut se reconstruire et ça prend du temps. L'essentiel, il faut d'abord l'intention.
Voilà. Merci infiniment. Merci beaucoup.
Merci
Hicham. Merci à tous pour votre confiance, pour ce partage en toute humanité, sans langue de bois et en toute confiance, dans ce rendez-vous masculin sur Média, et bien sûr en avant-première sur Média Podcast. N'oubliez pas d'ailleurs de vous y abonner via l'application Média Podcast ou sur les plateformes de podcast habituelles.